Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau éclairage qui nous donne le plaisir d'accueillir Paul Goldschmidt, qui est un des anciens directeurs de la Commission européenne spécialisée dans la finance. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet en pleine actualité, le sauvetage des banques espagnoles. Et sur ce sujet, vous avez d'ailleurs commis récemment une chronique très très intéressante dans laquelle, en fait, vous vous interrogez sur le véritable sens de ce sauvetage que tout le monde appelait de ses voeux, qui est intervenu très rapidement. Quel est donc le sens caché de ce sauvetage des banques espagnoles ?
Je pense qu'il ne faut pas parler de sens caché. Le sauvetage était indispensable. Et donc, de ce point de vue-là, il est bienvenu. C'est plutôt le contexte politique qui peut-être pose question, en ce sens que la manière dont les annonces étaient faites ont voulu amoindrir, pour des raisons de politique intérieure espagnole, l'aspect sauvetage, pour bien faire la différence entre la situation espagnole et celle d'autres pays qui, auparavant, ont recouru à l'aide de l'Union européenne. Mais en réalité, je pense qu'il faut être conscient qu'il s'agit bien d'un appel au secours de l'Espagne, même si l'aide est confinée à ses banques.
Voilà. Parce qu'évidemment, on a été un peu surpris par ces atermoiements du gouvernement espagnol qui, en fait, prétendait que ce prêt n'était pas vraiment sollicité et que qualifié en fait d'une simple opération de prêt sans autre effet qu'un prêt classique, on va dire, qui interviendrait dans une communauté. En fait, la situation des banques espagnoles est aussi le révélateur d'une situation très complexe et contagieuse de l'ensemble des banques, puisqu'il semble que parmi les propositions qui sont avancées au niveau de la Commission, il y aurait une volonté de créer une sorte de supervision européenne des banques européennes.
Alors effectivement, comme vous le mentionnez, c'est une situation extrêmement complexe qu'il faut éviter de simplifier. Le sauvetage des banques espagnoles est nécessaire parce que, évidemment, ils ont un bilan où leurs actifs, notamment immobiliers, créent des pertes importantes et il s'agit donc de les recapitaliser. Normalement, étant des entreprises privées, elles devraient s'adresser au marché. Mais dans un contexte où le marché bancaire en général est fragilisé, où il est évident que le marché n'est pas prêt à apporter du capital frais à ses banques, et par conséquent, l'État doit se substituer au marché pour renflouer les bilans. En faisant ça, puisque c'est l'État qui doit le faire, elle doit elle-même s'endetter. Et c'est bien ce qui se passe, puisque la soi-disant ligne de crédit de 100 milliards d'euros, ou jusqu'à un montant de 100 milliards d'euros, va venir grever le montant total de la dette espagnole. Alors, la situation espagnole se complique encore parce que, quoi qu'on n'ait pas encore défini de manière précise le mécanisme qui sera utilisé pour amener ces fonds à la disposition des banques, on sait probablement que ce sera la FROB, une filiale à 100%, donc une agence du gouvernement espagnol qui sera l'emprunteur. Néanmoins, c'est l'État qui s'endette à hauteur du montant qui sera utilisé.
In fine, c'est le garant en dernier ressort.
Tout à fait. Seulement, cela crée un problème supplémentaire parce que dans les statuts du mécanisme européen de stabilité qui est pressenti comme le prêteur, il y a un dispositif qui donne à ce mécanisme un statut privilégié par rapport aux autres créanciers des mêmes débiteurs. Ce qui rendrait toute la dette souveraine de l'Espagne subordonnée à cette créance. Il est évident que pour les détenteurs des milliards d'euros de la dette espagnole, ils se trouvent tout à coup mis à un rang inférieur à celui du MES Et ça s'est traduit immédiatement, lorsqu'on s'est rendu compte de cela, par une hausse spectaculaire, notamment hier sur les marchés, du taux de la dette espagnole, notamment dans le long terme.
Alors, on est dans une situation contagieuse, on le disait tout à l'heure. Je précise au passage que nos auditeurs ont remarqué dans votre intervention un léger accent de voisin, puisque vous êtes originaire et vous vivez, j'imagine, en Belgique. Je rappelle aussi à nos auditeurs que vous êtes un auteur et un chroniqueur très expérimenté et très attendu. Je reviens donc sur notre sujet pour maintenant regarder devant. Quelles sont, selon vous, les conditions qui pourraient faire que l'Europe reprenne le contrôle de son destin, en quelque sorte ?
Alors, ça l'a fait plusieurs années que je suggère que la sortie de la crise ne peut passer que par plus d'Europe. Et ce que je constate maintenant, bien tard, c'est que ce point de vue semble être de plus en plus partagé par d'autres chroniqueurs ou analystes de la situation. Pour donner un seul exemple, j'avais déjà en 2009, dès la publication du rapport de Larosière, préconisé qu'au moins au niveau de l'eurozone, il fallait un seul régulateur et un seul système de supervision plutôt que des systèmes nationaux qui continueraient à exister en parallèle. Je constate que c'est depuis une dizaine de jours la proposition du président Barroso qui préconise la même chose, seulement venant dans un contexte de crise, il est évident qu'il est beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre.
Alors vous avez cette phrase en disant « j'appelle de mes voeux une Europe fédérale ». En résumé, bon, la marche en avant tarde à se faire, mais peut-être que cette vision va être enfin partagée. Et, dites-vous, une BCE de plein exercice. Alors, une BCE de plein exercice, c'est quoi ?
Alors, la BCE est donc la Banque Centrale Européenne. Elle n'a pas, contrairement à ce que beaucoup de chroniqueurs ou même de politiciens pensent, n'a pas tous les pouvoirs de banque centrale similaire telle que la Fed aux États-Unis ou la Banque d'Angleterre. Nous entendons souvent cette phrase, la BCE n'a qu'à prêter aux États comme le fait la Fed ou comme le fait la Banque d'Angleterre. Or, il serait plus correct de comparer la situation au fait que la Fed ne prête absolument pas à la Californie ou à la Floride, mais prête au gouvernement fédéral. Et par conséquent, on ne peut pas dire que les situations sont comparables. Donc, si nous avons une Europe fédérale, il sera possible d'avoir également une banque centrale qui pourrait assumer, pour autant qu'on change les traités en conséquence et le statut de la banque elle-même, on pourrait avoir une banque qui aurait ce pouvoir de financer, le cas échéant, l'État fédéral européen, qui lui-même se chargerait de la redistribution au niveau des États. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la question de la monétisation de la dette. Il est évident que, représentant 17 pays aujourd'hui, la Banque centrale ne peut pas, à son statut lui imposant le contrôle de l'inflation, etc., ne peut pas monétiser la dette, ce que peut faire la Banque d'Angleterre, ce que peut faire la Fed. Et quand je parle donc d'une banque de plein exercice, je parle d'une banque centrale qui agirait dans un contexte similaire à celui de la Banque d'Angleterre et de la Banque fédérale américaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
D'accord. Alors, vous êtes membre du comité consultatif de l'Institut Thomas More. Vous avez donc une vision, on va dire, panoramique des problèmes de la finance moderne. Est-ce que la situation européenne, finalement, globalement, vous inquiète vraiment ? Ou est-ce que vous restez tout à fait optimiste dans la capacité de cette zone économique qui a pourtant tant d'atouts pour elle, de trouver un chemin et une vision commune ?
Elle m'inquiète chaque jour davantage. J'étais jusqu'il y a un ou deux ans persuadé que, confronté aux difficultés qui maintenant s'accumulent, on trouverait des solutions. Je dois dire que je commence à croire que les obstacles politiques à la réalisation de ces ambitions deviennent de plus en plus difficiles. Et je dirais que dans ce cadre-là, ce qui m'inquiète le plus, c'est la relation franco-allemande. Et dans cette problématique-là, ce qui m'inquiète surtout, c'est la situation française. Pourquoi ? Parce que le résultat des récentes consultations électorales a fait surgir une bipolarisation marquée avec la disparition du centre et même, et je dirais c'est assez emblématique parce que la disparition de M. Bayrou et de ses amis, si on écarte ses responsabilités personnelles dans sa défaite, il y a quand même un message qui a été adressé par les électeurs que la vision que lui avait d'un grand rassemblement au centre n'était pas voulue. Il faut en tirer la conclusion suivante. Même si un sentiment pro-européen resterait majoritaire en unissant, je dirais, la droite de la gauche et la gauche de la droite, comme la gauche et la droite s'opposent, ils sont tous les deux, l'UMP autant que le Parti socialiste, tributaires de leurs extrêmes, le Front de gauche d'un côté, le Front national de l'autre. Ce qui fait qu'on voit difficilement dans cette structure-là comment il sera possible d'obtenir de la France des transferts de souveraineté indispensables pour créer cette Europe fédérale qui n'est pas nécessaire du jour au lendemain, mais qui oui. doit être clairement l'aboutissement.
La feuille de route.
Il me semble qu'il est totalement impossible que le nouveau président puisse s'engager de manière ferme dans cette voie-là. Que l'ancienne droite, quand M. Sarkozy était au pouvoir, il a aussi été fermement contre les transferts de pouvoir à Bruxelles. Et dans ces conditions-là, on ne réunira pas les conditions minimum nécessaires pour que l'Allemagne aille de l'avant et prête son bilan considérable au soutien de l'économie européenne.
Voilà. Peut-être enfin, on va comprendre que la souveraineté pour les petits États européens n'a que de sens au niveau européen et que la seule souveraineté, elle est européenne. En tout cas, merci pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes un des postes directeurs de la Commission européenne, vous étiez spécialisé dans les affaires financières et que vous êtes un membre consultatif de l'Institut Thomas More. En tout cas, merci d'être venu ici à Paris. Je crois que l'actualité nous contraindra à nous revoir bientôt sur des mêmes sujets. Merci à vous, cher Paul.
Avec grand plaisir.
Merci.